Cheers to Pumas! Down!
Le grain de sable. Pensée globale. Une mission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
Bonsoir, bienvenue au grain de sable d'Atacrone. Donc ce soir, on va vous parler de des massacres qui ont été perpétrés cet été à Gaza par le gouvernement israélien. Donc on a invité Dominique Nolli, qui est membre du collectif 69 Palestine, c'est comme ça qu'il s'appelle, oui, et aussi membre d'Attaque. Donc si tu veux d'abord nous expliquer un peu ce qu'est le collectif 69, et puis après on attaquera le sujet.
Oui, tout à fait. Alors le collectif 69 de soutien au peuple palestinien, c'est depuis 10 ans, hein, c'est un, comme son nom l'indique, il rassemble un certain nombre d'organisations ou de personnes sur la question de la Palestine, exclusivement sur la question de la Palestine. Donc nous avons comme adhérents des partis politiques, des syndicats, des associations spécifiques sur la Palestine, par exemple AFPS,
AFPS qui veut dire,
ah oui,
on explique les sigles parce que sinon
Association France-Palestine Solidarité, voilà. L'Union juive française pour la paix, la Euro-Palestine, un certain nombre d'associations comme ça qui sont spécifiques sur la Palestine, des associations de droits sur la défense des droits humains, la Ligue des droits de l'homme, il y a le mouvement pour la paix et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est-à-dire que ça représente sur le Rhône toutes les personnes qui veulent soutenir le peuple palestinien. Donc dans un esprit très large.
Et le fonctionnement, c'est des réunions régulières, ou si c'est en fonction de l'actualité, ou comment ça se passe ?
Non, depuis 10 ans, il y a un travail continuel qui se fait, avec deux réunions mensuelles, une pour le conseil d'administration, et une réunion large qui réunit les adhérents, mais qui est aussi ouverte largement à ceux qui veulent. Et ça, depuis 10 ans, ça fonctionne comme ça.
On rappellera en fin de l'émission les liens si des gens veulent vous rejoindre le collectif. On va parler donc de ce qui s'est passé à Gaza cet été. Donc tu voulais commencer par un peu nous parler des causes. Enfin, qu'est-ce qui a déclenché ce massacre en fait, hein?
Alors oui, parce que les choses peuvent n'être pas très claires à ce niveau-là. Parce que on subit en fait par le biais de nos médias dominants, on subit en fait assez directement la propagande israélienne. Bon, ça c'est dans un deuxième temps dans cet été là, ça a été un peu moins, mais au départ, et puis bon, sur le fond, hein, de la réalité de l'agression, donc c'est dans un premier temps, on a repris la position de Netanyahou, qui était à dire qu'il fallait réagir et il fallait venger, il fallait trouver au départ les trois jeunes colons
qui avaient été enlevés,
des réservistes d'ailleurs, mais des trois jeunes colons qui avaient été enlevés, on ne sait pas, hein, parce qu'en fait ils avaient été retrouvés le lendemain.
Ouais.
Donc là-dessus, on nous a fait, ils ont rejoué les 200 enlèvements de jeunes filles de Boko Haram, et ils ont fait une campagne Bring Back Our Boys. Donc voilà, ils nous ont joué ça, et ça, donc nos médias nous l'ont transmis directement.
Ils sont partis à fond là-dedans. Oui.
Voilà. Ensuite, ça a été la riposte, défendre Israël contre l'attaque des roquettes. Donc ça, on l'a eu, hein, mais évidemment c'est pas ça, ça ne sont pas les causes réelles de l'agression. C'est ce que dit Michel Varchavski. Il dit l'ennemi stratégique d'Israël, c'est la négociation. Et bon, c'est vrai. C'est-à-dire que aujourd'hui, après 9 mois de discussions, de blabla autour de John Kerry, qui ont, pendant que se déroulaient les discussions, la colonisation progressait. Suite à ça, il y a eu un accord de gouvernement entre Hamas et Fatah.
Oui.
Et voilà quelque chose qui était très dangereux pour Israël.
Ça n'allait pas dans le sens de, voilà, de leur intérêt.
Et il s'agit toujours, dès qu'on parle de négociation, Israël aussitôt parle d'autre chose. On a eu Netanyahou nous a joué à l'ONU l'année dernière. La bombe que représentait l'Iran. Donc, alors que les négociations se déroulaient, alors que les discussions avaient lieu, s'entamaient avec John Kerry, voilà que lui, il parlait tout à fait d'autre chose. Ça a toujours été un petit peu la façon de faire. La négociation, dit Michel Varchavski, c'est l'ennemi stratégique d'Israël. Et donc là, l'événement marquant, c'était cet accord de gouvernement Hamas-Fatah, ce gouvernement qui continue toujours d'exister. Hein.
C'est la première fois que ça se passait, qu'il y avait des accords entre les deux parties.
Oui, à ce point-là, oui. Mmh. Il y a eu une base d'accords qui avait été faite plus d'un an, mais qui n'avait jamais...
Jusqu'à former un gouvernement.
Ouais. Mais non, qui n'avait pas été jusqu'à former un gouvernement. Il y avait eu un accord déjà. Mmh. Un accord qui réunissait d'ailleurs non seulement Hamas et Fatah, mais aussi d'autres factions palestiniennes. Hein. La gauche...
C'est quelque chose qu'on connaît peu, parce qu'on nous parle beaucoup du Fatah, on parle beaucoup de Hamas, et il existe d'autres forces au niveau de la Palestine.
Oui, alors il y a le FPLP, il y a un certain nombre de... Alors, en général, les forces de gauche font partie de l'OLP. Et donc, sont plus ou moins dans l'autorité palestinienne, travaillent plus ou moins avec l'autorité palestinienne. En dehors de ça, on a comme force représentative importante, donc Hamas et le djihad islamique. Cet accord, il y a eu un gouvernement donc qui a été un gouvernement d'union, et ce gouvernement d'union a été reconnu par à la fois les États-Unis et l'Europe.
Et l'Europe, oui.
Donc voilà pour Netanyahou l'impérieuse nécessité
c'était insupportable. En fait.
Voilà, c'était insupportable. D'autre part, il y a périodiquement, sur Gaza, c'est tous les 2 ans maintenant, donc c'est une régularité de métronome. On a eu en 2012, et puis il y a eu plomb durci 2008-2009, fin 2008 et début 2009, et c'est un peu comme un métronome, il s'agit de maintenir une pression, de maintenir la répression. Israël est une colonie, et il s'agit de maintenir la pression coloniale. Donc pour cela, il faut montrer qui est le plus fort. Mm-hmm. Alors à ce propos, en parlant de colonisation, il faut évidemment, le focus a été mis sur Gaza, et comment ne pas faire attention à cette situation affreuse.
Des destructions massives.
Des destructions massives. Obligatoirement, l'attention est attirée là-dessus. Mais en même temps...
Parallèlement à ça, ça a continué à construire des colonies en Cisjordanie.
À construire et à faire des répressions, à emprisonner des personnes. Il y a eu, et à tuer, parce qu'il y a eu une quinzaine de personnes qui sont mortes. Donc des manifestants qui ont été tués en Cisjordanie.
Qui manifestaient pour soutenir Gaza.
Pour soutenir Gaza.
Ah ben ça, on a très peu entendu parler.
Voilà. C'est normal qu'on soit...
Les médias ont tendance à...
Sur Gaza. Mmh. Mais il faut bien savoir que pendant ce temps-là, la colonisation continue.
Ouais.
Et avec une accélération. Et d'ailleurs, au départ, dans la recherche des trois kidnappés, au départ, ils disaient bien, le gouvernement israélien, qu'il s'agissait, c'était le Hamas, parce qu'ils avaient décidé que c'était le Hamas, ça arrangeait.
Bien, hein.
Personne, évidemment, aucune preuve. D'ailleurs, ces trois jeunes kidnappés, d'ailleurs, ils ont été retrouvés, semble-t-il, dès le lendemain, ils avaient été trouvés, ils les ont maintenus... cachés pendant tout le temps de faire ces...
Ah d'accord, au début de l'attaque, ils avaient déjà retrouvé les trois.
Ça, c'est, on l'a su après.
D'accord.
On l'a su après. Et donc, ça a permis de désigner le Hamas comme la cible et d'aller faire des recherches dans toutes les maisons, aller rechercher dans les citernes, aller rechercher dans les caves et donc d'exercer une répression aussi bien en Cisjordanie. En Cisjordanie, donc une répression coloniale, et puis sur Gaza, c'est les destructions massives. Évidemment, il y a toujours volonté d'affaiblir militairement le Hamas, mais en fait, c'est plus ou moins le but, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est un renforcement politique.
Oui. En fait, ils ont intérêt à ce que le Hamas existe, à la limite, et qu'ils envoient quelques raquettes de temps en temps. Ça justifie une intervention.
Oui, bon, disons qu'ils utilisent ça, mais maintenant, on a bien compris, cette fois-ci, qu'il y a vraiment une force militaire de la résistance palestinienne, puisque ça a été jusqu'à envoyer des roquettes jusqu'à Tel Aviv, avec des effets réels, Alors, bon, il s'agit pas de destruction, mais il s'agit d'effets économiques. Mmh. Par exemple, l'aéroport de Tel Aviv a été fermé. La saison touristique a été gâchée pour Israël. Il y a eu au niveau psychologique, le fait de devoir se réfugier dans les abris, c'est quelque chose qui a marqué. Donc cette fois-ci, on a vu qu'il y avait un renforcement effectivement militaire du Hamas et de
la résistance
islamique. Et c'est une partie du rapport de force qu'il faut pas du peuple palestinien qu'il ne faut pas négliger. Maintenant, ce que dit Michel Verchaski aussi, il dit en fait, il cible le Hamas, mais la cible réelle, c'est Mahmoud Abbas. C'est-à-dire, ils veulent le mettre en porte-à-faux.
Ah ouais.
Ils veulent le mettre en porte-à-faux. Si Mahmoud Abbas soutient le Hamas, à ce moment-là, ils vont pouvoir le désigner du doigt et dire on ne peut pas traiter avec lui. Donc, Mahmoud Abbas est dans une situation toujours extrêmement difficile. Entre le peuple palestinien qui se bat contre Israël, et puis entre les partenaires internationaux où il faut qu'ils continuent à être un partenaire acceptable.
Voilà.
Donc il fallait donc mettre un coin entre Mahmoud Abbas et puis donc le Hamas. Bon, enfin, une autre raison, mais c'est toujours le cas, et ça marche toujours, ça marche toujours au début, c'est unifier les Israéliens contre un ennemi extérieur.
Oui, ça c'est assez classique.
C'est toujours classique, et ça marche toujours.
Ouais.
Au début, parce que là, après, ça n'a pas forcément bien marché.
Enfin, moi, en lisant un article de Dominique Vidal sur Mediapart, ça a l'air d'avoir rien. Militairement, ils ont pas réussi à comme ils voulaient éliminer le Hamas, réduire le Hamas au silence. Les Palestiniens à 75%, je lis, considèrent que le Hamas comme vainqueur, et les Israéliens à 53% estiment que leur pays a perdu le.
Un petit peu avant de faire le bilan, on ne peut pas éviter de parler des destructions et du massacre qui a eu lieu.
Ouais.
Même si certains disent que c'est une victoire, de la résistance palestinienne, on peut pas, avec 2000,
oui, avec
2000
les
morts,
les chiffres, exact,
500...
2131 morts, ouais, donc 1473 civils, là, je vois.
Ouais.
18 000 immeubles détruits, ou 13 endommagés, enfin, c'est énorme, quoi.
Oui. C'est quelque chose de considérable. C'est disons que ça c'était jamais vu. Ça s'est déjà vu avec plomb durci. Et là c'est pire, c'est-à-dire que ça a duré 50 jours. Les destructions en masse de matériaux, de débris, c'est 4 fois plus que plomb durci.
Ah, d'accord.
C'est énorme, c'est des millions de tonnes de déchets. Aujourd'hui, il y a des millions de tonnes de décombres.
De gravats.
Ah, ouais. Aujourd'hui, la situation est désespérante. Mmh. Je ne peux pas dire que c'est désespéré. Et par exemple, à tel point que ce qui n'existait pas auparavant, il y a une migration, notamment les noyés de Malte. Là, il y avait beaucoup de Palestiniens
ah ouais.
de Gaza qui font partie de ces réfugiés
qui ont fui et qui ont été
d'ailleurs dont le bateau a été coulé délibérément. Donc il y a un certain nombre de gens de Gaza qui étaient dans ce bateau.
Ah ouais.
Parce que la situation est humainement
oui, parce qu'il y avait des quartiers apparemment complètement détruits, là, d'après les images qu'on a vues.
Oui. À Chouvaya, c'est une ville de 150 000. C'était une ville de 150 000 habitants, il n'y a plus rien. 150 000 habitants, il n'y a plus rien. Ça sera dans l'histoire comme Sabra et Chatila. On retiendra ça. Aujourd'hui les gens ont des drones. Sur la tête continuellement, avec un bruit de moteur, de machine
toujours,
à coudre.
Toujours
continuellement,
maintenant, là,
oui.
Ouais.
Oui, parce qu'ils préparent les suivants. Ah. Alors, soit c'est psychologique, soit ils préparent les prochains bombardements. Il y a 90% de personnes qui sont maintenant sous le seuil de pauvreté. Les installations sanitaires.
Parce que l'économie locale a dû complètement arrêter. Enfin, le peu qu'il y avait d'économie, parce qu'il ne doit pas y avoir grand-chose à Gaza.
C'était déjà le cas, ouais. Mais là maintenant, c'est
tout arrêté.
Ouais. C'est tout arrêté. Les accords de. Donc, on pourra reparler après des accords, mais pour le moment, c'est pas respecté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui ou hier, des pêcheurs qui étaient sur la plage, là, donc ils dépassaient pas les zones.
Ah oui, parce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient élargir les zones
voilà,
de pêche.
Ouais. Oui. Mais là, il y a quelqu'un qui a été blessé.
Sur la plage.
Il était sur la plage.
Ah, il était trop loin
un pêcheur
trop
de 70
sur la plage.
Ans. Donc, la plupart de la rentrée scolaire ne s'est pas faite parce que les écoles servent aujourd'hui à accueillir les réfugiés.
Mmh.
Donc, l'électricité, la centrale électrique a été détruite. Il n'y avait qu'une centrale électrique, elle a été détruite. Donc, ça s'est fait.
Les écoles, il y en a qui ont été détruites aussi, on a entendu. Oui,
ouais.
Il y a aussi des écoles qui ont été détruites.
Oui. Un nombre important d'écoles détruites. Mmh. La situation humanitaire est difficile. Les gens ne peuvent pas fuir par Rafah, par exemple, par le passage d'Égypte.
Ouais.
C'est-à-dire que le blocage est quasiment total, comme auparavant.
On va peut-être faire une petite pause, oui, puis on reprendra par la suite. Bien, nous voilà de retour donc en Palestine avec Dominique Nolli. Donc je voulais faire une petite précision parce qu'on m'a fait remarquer qu'on avait parlé de plomb durci au début et je voulais préciser que c'était effectivement l'intervention qu'il y avait eu en 2008-2009 du gouvernement israélien sur Gaza déjà, qui avait fait aussi pas mal de dégâts.
Ouais, 1400 morts.
Ouais.
1400 morts.
Ok, donc on continue, on attaque le bilan, comment tu...
Je repensais un peu au constat déjà. L'autre jour, j'étais au comité de bienveillance et de soutien au peuple palestinien, une association humanitaire qui fait du parrainage d'enfants de façon au palestinien. Et donc mon ami là montre son écran sur l'écran et il me fait défiler tous les nouveaux orphelins. C'est-à-dire, ils ont des dossiers pour gérer les orphelins. Et il me fait défiler sur les camps tous les nouveaux orphelins de ce dernier massacre. Ça, c'est des choses qu'on voit avec la tête, etc. Il y a des familles qui ont été décimées, quoi. Des familles entières décimées. Alors, le bilan. 75% des Palestiniens considèrent que le Hamas est sorti vainqueur. Et 53% des Israéliens considèrent que Netanyahou a perdu. C'est vrai que parler de victoire dans ces conditions, c'est bon. Maintenant, c'est vrai qu'il faut essayer d'arriver à prendre un peu de distance et d'analyser les choses. Alors, vis-à-vis de la population de Gaza, c'est vrai que il y a d'une façon générale le fait qu'ils ont résisté. Il y a toujours cet objectif de détacher la population en disant voilà, c'est à cause du Hamas que nous vous frappons. Donc détachez-vous du Hamas.
Ouais, à la limite, si on élimine le Hamas, il n'y a plus de problème. Quoi.
Voilà. Mais c'est toujours la stratégie des occupants. De fait, ça marche pas, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Alors, vis-à-vis des objectifs de Netanyahou, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il faut voir, l'agression, c'est bien une agression israélienne. C'est lui qui avait des objectifs. Le Hamas, lui, c'est un objectif, c'est de résister.
Alors que notre président, dans un premier temps, soutenait le gouvernement israélien, qui était bien normal qu'il se défende contre des agressions du Hamas. Hein. C'était ça son positionnement au début. Bon, il est revenu après dessus, mais...
Oui, il est revenu doucement.
Oui, doucement, mais le premier réflexe était quand même un peu dur.
Et donc, on a jamais vu ça.
Ouais.
On n'a jamais vu une telle attitude unilatérale, et surtout dans un moment de paroxysme comme celui-ci, prendre fait et cause pour Israël à ce point-là. Bon, d'ailleurs, ça a été très mal vécu, hein, dans les manifestations. Le slogan qui était le plus populaire, c'était Israël assassin, Hollande complice.
Ouais.
C'est fort, hein, ouais. C'est fort.
Ah ouais.
Et c'est vrai que la communauté internationale a une responsabilité, et la France notamment, l'Europe, la France, a une responsabilité. Ah. Ils sont responsables.
Bien sûr.
Ouais. Ils sont responsables. Donc Netanyahou avait un certain nombre d'objectifs, mais lesquels? Parce qu'au fil du temps, il les égrenait, il y en avait différents. Au départ, il parlait de vengeance, de se venger contre le... Bon, d'abord, il voulait retrouver les trois...
Les ravisseurs.
Les trois. Il voulait retrouver les ravisseurs. Non, d'abord, il voulait retrouver les trois colons, les trois jeunes colons.
Ouais.
Bon. Après...
Il voulait punir les ravisseurs.
Il voulait se venger vis-à-vis des ravisseurs. Vengeance. Par exemple, vengeance, là, c'est quelque chose de commun. Ils ont, avant que les procès soient faits, etc., ils ont des soupçons sur les... Ils ont des soupçons, ils disent, tiens, ce sont eux qui ont enlevé et tué ces colons, et bien on va écrouler leur maison.
Ouais.
C'est en Israël, c'est normal. C'est le genre de truc que, ah oui, c'est pour bien montrer, il ne faut pas le faire, hein, voilà, on va vous écrouler la maison. Bon, leur maison a été écroulée. Après, il y a eu plusieurs objectifs. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'il est critiqué. C'est qu'il laissait planer le doute sur une réoccupation de l'ensemble de la bande de Gaza. Et certains de ses ministres, aujourd'hui, veulent toujours réoccuper.
Ouais. Mais il y en a qui ont toujours pas supporté qu'ils aient évacué Gaza, quoi.
Oui. Oui, ils n'ont pas compris que c'était tactique et que ce qui leur importe, c'est la Cisjordanie. C'est la Cisjordanie, c'est le Negev aujourd'hui. Donc, une occupation qui continue. Donc là, vis-à-vis de la réoccupation, ben non, ça c'est pas fait. Après, destruction des tunnels, ça a été un objectif qu'il a annoncé.
Ouais.
Bon, ils en ont détruit sans doute un certain nombre. Mais l'opération terrestre s'est terminée assez vite, hein, avec des pertes sévères pour l'armée israélienne, de soixantaine de militaires. Après, il a l'objectif de la démilitarisation du Hamas. Bon. Ben, vis-à-vis de tous ces objectifs, il n'y a pas grand-chose. Bon, la vengeance, oui, ça c'est sûr que... Les Palestiniens ont payé cher. Là, la vengeance a été... L'objectif est atteint. Pour le reste, non, il n'y a rien. Et le renforcement politique du Hamas est réel. Aujourd'hui, c'est Dominique Vidal, dans l'article que tu citais, qui indique que le Hamas sortirait vainqueur des élections. Et évidemment, ces élections-là que devrait organiser ce gouvernement d'union palestinienne, Israël va tout faire pour que ces élections n'aient pas lieu.
Oui, bien sûr.
Peut en être sûr. Voilà, alors sur il y a eu un accord qui a été fait, il y a eu un accord sur lequel la trêve a pu s'établir. Il y a eu plusieurs points. L'aéroport, création de l'aéroport, mais là on n'en sait rien, hein, réhabilitation du port de Gaza.
Oui, il y avait un port qui était demandé.
L'aéroport a été détruit, hein, déjà. L'Union européenne l'a construit. Israël l'a détruit. Entre parenthèses, quand on parle aujourd'hui de reconstruction à Gaza, ça pose aussi un problème. Autant il faut évidemment reconstruire Gaza au plus vite, et il faut que les gens puissent vivre dans de bonnes conditions au plus vite, autant les gens s'interrogent. Est-ce que l'Union européenne, les contribuables, est-ce qu'ils vont payer en sachant que 2 ans plus tard, ça va être détruit? Est-ce qu'on va payer en sachant que 30% de ce qu'on va donner est récupéré par les sociétés israéliennes, parce que tout passe par Israël? C'est quand même des questions assez lourdes sur le... Parce que c'est comme ça que ça se passe. Reconstruction de l'aéroport, réhabilitation du port de Gaza, l'ouverture du passage de Rafah entre l'Égypte et...
Oui, parce que pour construire, il faut aussi des matières premières, il faut qu'il y ait quelque chose qui rentre dans Gaza pour reconstruire.
Et il y a les points de passage israéliens. Des points de passage qui sont pour les personnes à Erez et puis des autres, Kerem Shalom, etc., d'autres pour les camions. Donc, ouverture de ces points de passage. Il y a réduction d'une zone. Il y a une zone qui a été volée par Israël, une zone tampon tout au long de la bande de Gaza. Pourtant, Dieu sait si la bande de Gaza, c'est petit. Hein, et ça fait 10 km de large. Ils ont pris un kilomètre tout le long de la frontière, établir un no man's land et empêcher les paysans de cultiver ces terres, etc. Donc là, il y avait une réduction qui était prévue également. La zone de pêche devait être élargie. Parce qu'aujourd'hui, ils pêchent dans les eaux dans lesquelles se déversent les eaux usées parce que les installations sanitaires ont été détruites.
D'accord, donc ça part tout dans la mer.
Ça part tout dans la mer et ils doivent se cantonner à pêcher là. Tout est fait, évidemment, pour décourager les gens. Tout est fait pour que les gens, pour que les Palestiniens s'en aillent et pour qu'ils se soumettent. C'est clair. Donc voilà ce qui était prévu au moment de la trêve et maintenant il devrait y avoir de nouvelles négociations cette fois qui devraient s'engager.
C'était négociations entre
Israël et les Palestiniens.
Alors, c'est avec le nouveau gouvernement, enfin le gouvernement constitué Fatah en masse, ou c'est qui va négocier avec les Israéliens?
Alors, ça serait sous le. Avec toujours des intermédiaires. Alors, l'Égypte jouerait le jeu de l'intermédiaire, alors qu'aujourd'hui, l'Égypte n'est pas neutre. Hein. L'Égypte est contre. Il faut savoir que l'Égypte est contre le Hamas à 100%, parce que le Hamas vient des frères musulmans, et que l'ennemi principal de l'Égypte aujourd'hui, ce sont les frères musulmans. Donc voilà, avec un allié comme ça, on peut être vraiment. C'est un pays arabe, mais c'est avec un allié comme ça, on préférerait s'en passer. Mais c'est l'Égypte qui continue de jouer le rôle de cet intermédiaire. Il y aura des négociations. Comme il y a eu des négociations indirectes, il y aura des négociations indirectes. Évidemment, les Israéliens disent qu'ils ne négocieront pas avec le Hamas. Et le Hamas, d'ailleurs, non plus, ne veut pas négocier directement avec Israël. Donc, mais de fait, ce sont bien les protagonistes qui sont amenés à négocier.
Donc en fait, au niveau du blocus, ça pourra réellement changer, en fait, au niveau de...
Aujourd'hui, je lisais ce matin dans l'agence CPI, là, rien n'est respecté. Rien n'est respecté. C'est comme d'habitude. Et c'est vrai que, on l'a vu, hein, Israël ne respecte pas ses accords. Et sous la pression, il cède du terrain, mais dès que la pression s'en va...
C'est comme les résolutions de l'ONU, je pense.
C'est comme les résolutions de l'ONU. Ils se considèrent au-dessus, Ils se considèrent au-dessus de tout ça.
T'as une idée du nombre de résolutions qui sont censées être...
Plus de 40.
Plus de 40,
il me semble. Sur notre site, il y a un article dessus. Il y a un article dessus.
J'y arrive à rien.
Oui, plus d'une quarantaine. On pourrait parler peut-être également de donc ce qui pourrait inciter Israël à négocier et à lâcher du lest, ce serait la crainte de passer en cour pénale internationale.
Ah oui, ça c'est intéressant. Là, il y a des mouvements qui appellent à ce qu'Israël soit attaqué en justice internationale.
Oui. Donc, c'est une menace que fait peser l'autorité palestinienne. À la fin des 9 mois de discussion, je ne sais pas quel mot employer,
ouais,
des 9 mois d'attente avec John Kerry, l'autorité palestinienne a décidé d'adhérer à un certain nombre d'organisations de l'ONU, en gardant en dernier paquet l'adhésion à la Cour pénale internationale. Mmh. Il y a eu... De Lyon, là, il y a un avocat qui s'appelle Gilles Devers qui avait fait une démarche avec le gouvernement donc d'Union pour reprendre la demande, la plainte qui avait été posée à la CPI pour 2008-2009. Plainte qui avait été...
Qui était restée en plan, cette plainte, elle était devenue quoi?
Eh bien, le procureur de la CPI de l'époque... l'avait laissé tomber en disant ben finalement on sait pas bien si la Palestine est un État, et il avait laissé tomber. Et aujourd'hui donc on a l'adhésion de la Palestine à l'UNESCO. À l'UNESCO déjà, mmh, en pleine et entière. Mmh. Et puis ensuite...
Elle est aussi à l'ONU en tant que... Enfin, elle n'est pas en titre, mais je ne sais pas voilà, quel est exactement le terme.
Elle est membre observateur. Là, c'est membre observateur. Ouais. Bon, elle n'est pas membre de plein droit, ouais, mais elle est membre de l'ONU. Mmh. Et donc, avec ce label-là, mmh, ces nouveaux arguments, cette plainte pouvait être réhabilitée. Et il y a eu une démarche qui a été faite. Bon, maintenant, apparemment, le Premier ministre palestinien l'aurait mis sous la table pour le moment, gardant sans doute cet argument fort pour les négociations. Mmh. Donc oui, là, on a été un peu déçus, parce que c'est vrai que on a besoin de rapports de force pour faire plier cet État colonial, et s'attendait quand même avec...
C'est un des moyens quand même qui...
Avec ce massacre, oui, et puis maintenant, et c'est vrai qu'il y a un désir de justice qui est important, il y a un deux poids deux mesures continuel. Alors, quand c'est sur l'Ukraine, c'est... Bon... Toutes les organisations internationales sont mobilisées.
Le traitement est différent.
Le traitement est totalement différent. La Palestine, il peut y avoir 2000 morts.
On le voit au moment des informations, quand il y avait un enfant qui a été touché par une roquette en Israël, on nous fait des tas de...
Oui, il y a eu un mort.
Voilà,
un
c'est enfant, ça, et ça fait, mort. Ça fait des, au niveau du journal télévisé. Oui. Des interviews de gens qui alors qu'il y avait des centaines de morts de l'autre côté, sans...
Non, un enfant, c'est un enfant.
Ouais.
Voilà. Donc, ouais, c'est l'attitude coloniale. Hein. Il y a des gens qui valent mieux que d'autres. Il y a des gens qui... Il y a des gens qui méritent plus que d'autres. Donc, ce désir de justice est important. Alors, bon, je pense certainement que c'est pas perdu, mais il y a eu une occasion qui a été loupée. Maintenant, c'est les Palestiniens qui voient, quoi. C'est un peu dommage, parce qu'il y avait une démarche, et nous à Lyon, on avait donc un avocat de renom, hein, Gilles Devers, qui avait fait un gros travail là-dessus. Bon, qui sera, j'espère, repris. Sur le...
Je vois l'heure qui avance. Là, tu voulais parler de ce qui s'était passé à Lyon. Donc, est-ce que tu as encore des choses plus générales à dire ou...
Je vais faire une petite parenthèse sur la justice.
Oui, vas-y.
Sur la justice. Donc, parce que justement, à Lyon, ça s'est bien manifesté. C'est-à-dire, c'est vraiment une...
Il y a eu une grosse mobilisation.
Ouais. Et puis, hein, le slogan...
Sur la durée, en plus. Ouais.
Israël au tribunal.
Ouais. Ouais.
Donc nous, aujourd'hui, heureusement, il y a une démarche de justice qui avance. C'est le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a décidé d'une enquête sur les crimes commis à Gaza. Et bon, là, nous, Français, on ne doit pas être fiers, parce que ce 23 juillet, la France s'est abstenue dans ce vote-là.
Ah bon?
Oui. Donc,
c'est au niveau européen, ça?
Non, au niveau de l'ONU.
De l'ONU.
C'est le Conseil des droits de l'homme de l'ONU.
D'accord.
Qui décidait de faire une enquête. Ils ont estimé, la France, que c'était pas, sans doute pas la peine. Voilà. Merci. Merci, je ne sais pas qui, au gouvernement. Voilà. Donc, déjà, à minima, avant même de parler de massacre, le blocus de la bande de Gaza, à lui-même, c'est un crime de guerre. Et ça, c'est depuis 2006. Ouais, le Comité international de la Croix-Rouge l'a déclaré. Depuis l'offensive de 2008-2009, plomb durci, comme nous disions tout à l'heure, le Centre palestinien des droits de l'homme a déposé 490 plaintes de la part de 1046 victimes. Donc là, on voit qu'il y a des juristes qui font du travail. Hein. C'est du sérieux. 490 plaintes. Alors voilà comment ces plaintes ont été traitées par les autorités israéliennes. Il y en a 446 qu'elles ont mis à la poubelle parce que ça ne les intéressait pas. Directement, voilà, d'entrée. Ensuite, le bilan de toutes ces 490 plaintes. Il y a un soldat qui a reçu une peine de 17 mois pour le vol d'un portefeuille. Enfin, il y avait 1400 morts. Hein. Mmh. Deux soldats ont reçu une peine de 3 mois avec sursis pour avoir utilisé un garçon de 9 ans comme bouclier humain. Donc, ça, utiliser un garçon de 9 ans comme bouclier humain, ça mérite 3 mois avec sursis. Avec sursis, ouais. Avec sursis. Bon, ils ont peut-être eu une médaille par ailleurs. Mmh. Et un dernier a été condamné à 45 jours de prison pour avoir fait un usage inapproprié d'armes à feu. Voilà. En fait, il a tiré dans un groupe de civils qui arborait un drapeau blanc. Bon.
C'est effectivement inapproprié. Ouais.
Donc, rien sur les 1400 morts, les milliers de blessés, etc. Donc, l'ONU avait mandaté une commission. Donc, face au manquement de la justice israélienne, normalement, c'est la justice du pays qui doit déjà intervenir. Et ensuite, les organisations internationales qui interviennent. Donc, suite à ça, l'ONU avait mandaté une commission d'enquête. Donc, on se souvient, c'est la commission d'enquête de Goldstone. Richard Goldstone. Le rapport Goldstone a présenté des preuves de crimes de guerre et de possibles crimes contre l'humanité. Il recommandait la saisine du Conseil de sécurité de la Cour de pénale internationale, la CPI. Et à ce jour, ce rapport est resté lettre morte.
D'accord.
Voilà. Donc, aujourd'hui, une des choses qu'il faut faire avancer, c'est bien ce...
Parce qu'on a vraiment la sensation que cet État est au-dessus des lois. C'est vraiment la sensation que ça donne. Quoi qu'il arrive, il s'en sort toujours.
Il y a une impunité totale. Mmh. Et donc, il s'embête pas. Il y a une protection, une bienveillance des États-Unis et puis une bienveillance européenne
actuellement. Aussi,
oui. Et d'autant plus, à ce niveau-là, on peut dire que Hollande est encore pire que Sarkozy sur ce dossier-là.
Tu veux parler un peu de ce qui s'est passé sur Lyon ?
Oui.
Parce qu'il y a eu une mobilisation assez forte qui a duré pendant tout le conflit, en fait.
Alors, il y a eu 50 jours de 50 jours, et à Lyon, il y a eu 12 manifestations,
rassemblement. Quasiment deux par semaine, le mercredi,
voilà,
et le samedi.
Ouais, quasiment deux par semaine. C'est rassemblé, la plus importante manifestation a rassemblé 10 000 personnes, c'est pas négligeable, c'est important. Et dans les 12 manifestations, j'ai compté à peu près 40 000 personnes. Ouais. Une mobilisation remarquable. C'est toute une jeunesse qui s'est levée et manifester sans, alors que la situation était terrible et émouvante. Hein. Mmh. J'ai manifesté dans le calme avec une grande responsabilité. Ça, c'était très important.
Ouais, surtout avec le contexte des manifestations parisiennes qui avaient été interdites et tout. Là, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des incidents,
oui.
En fait. Donc
et on peut dire que Lyon, comme les autres villes de province où il y a eu des mobilisations importantes, ça a joué pour renverser la chose. Parce que sur Paris, c'était parti, ils avaient réussi, donc le gouvernement de Manuel Valls avait... Le ministère de l'Intérieur avait réussi avec une provocation d'un groupuscule ultra-sioniste d'inverser les choses. Ils avaient réussi à interdire les manifestations, à provoquer des troubles et à déplacer le problème. Et grâce aux mobilisations qu'il y a eu en province, on a pu rétablir vraiment le sens de ces manifestations, qui était le soutien au peuple palestinien. Et donc c'est très important. Et c'est également important sur les médias. Les médias ont eu une inflexion après. Mmh. Et c'est dû à toutes ces manifestations. Il y a eu un effet réel. Au départ, donc, on a vu que les médias étaient 100% pour Israël. Et après, ils ont été obligés de tenir compte et de parler beaucoup plus. Comme je le disais aussi, d'une part, le but c'était d'arrêter le massacre. Mmh. Et deuxièmement, c'était que la justice soit rendue. Mmh. Et là, cette exigence reste. Hein.
Ah oui, parce qu'apparemment, il n'y a rien de fait pour le moment. Là.
Non.
Pour la suite, au niveau du collectif, là, il y a des choses de prévues. Bon, il y a toujours la campagne BDS, je pense, qui suit son cours. Donc, tu peux peut-être en dire deux mots si.
Il y a un certain nombre d'exigences, hein, donc, qui restent. Donc, ce qu'on a dit, c'est que la France doit intervenir pour que les responsables israéliens soient déférés dans la justice.
Ouais.
Mais aussi. Il faudrait que les Français qui étaient engagés dans l'armée israélienne durant l'été 2014 soient jugés.
Parce qu'il y avait des Français dans l'armée israélienne.
Voilà, il y a des Français comme toi ou moi, ou du moins Français comme toi et moi, qui participent de l'armée israélienne. Et certains étaient même dans les combats, puisqu'il y a eu un mort, un Lyonnais qui est... Nous, Français, on peut ici juger ces crimes.
Mais c'est quel statut ? C'est des gens de l'armée française qui sont...
Non,
individus comme ça s'engager dans l'armée étrangère. On a le droit de faire ça, d'aller s'engager dans une armée étrangère.
Visiblement, il y a eu un accord, un traité entre Israël et la France, qui date des années 50 ou 60, je ne sais pas.
D'accord.
Et j'ai pas bien étudié la question, et qui permet ça. Ceux qui ont la double nationalité peuvent faire leur service en Israël, font leur service militaire en Israël. Ouais. Et donc là, à ce propos, il y a eu un jeune Lyonnais qui a enquêté sur la question et qui a recherché sur Facebook des informations sur ces soldats-là. Et certains se vantaient, j'ai tué tant de personnes, etc.
D'accord.
Lui, il a trouvé ça sur Facebook, il a collecté ces informations, mais c'est lui qui s'est fait choper. Et il y a une action en justice contre lui, Hassan.
Par le gouvernement israélien ?
Le gouvernement français.
Par le gouvernement français ?
Le gouvernement français.
D'accord.
Donc je ne sais pas trop sous quel titre, mais donc effectivement, il semblerait que le gouvernement israélien ait alerté, les services compétents israéliens aient alerté la justice française, et il est en ce moment, on lui a piqué son matériel, etc.,
d'accord.
Et il y a une action en justice contre lui. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est une action en justice contre les criminels, hein. Les Français doivent être jugés. Le gouvernement français doit reconnaître, c'est toujours pas fait, officiellement l'État de Palestine. Donc, au niveau de l'Europe, il faut qu'on suspende l'accord d'association avec Israël, parce que le point 2 de l'accord d'association, ça c'est des choses, c'est respect mutuel des droits humains. Je ne sais pas,
mais
moi...
On est loin, là.
Il y a un peu de marge. Ouais. Donc, suspendre cet accord d'association. Et donc, les moyens qu'on a, nous, citoyens, on peut agir. On peut agir par le biais des associations, par le biais du collectif. On fera encore des manifestations, il y aura encore des rassemblements et des manifestations, mais en continu aussi, on peut agir en développant la campagne de boycott de l'État d'Israël. Il faut qu'Israël devienne un État paria, un État infréquentable. Et donc, partout où on a des accords, où on va acheter des fournitures à Israël, etc., il faut expliquer, il faut dire, ben non, je ne peux pas. Bon, en tant que client déjà... En tant que client, si on nous propose des produits israéliens...
Apparemment, dans ce que je disais dans l'article de Vidal, là, y a, ça prend un peu de l'ampleur, la campagne BDS au niveau international, d'après ce qu'il dit.
Oui, c'est une campagne qui a remporté déjà des succès importants et qui va être redynamisée encore, qui va se développer, qui va prendre un nouvel élan. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est le secteur économique, c'est-à-dire que des gens du business
qui... des fonds de pension, des banques, des fonds de pension,
qui se disent on va pas perdre de l'argent avec Israël. Il y a ceux qui sont... Donc idéologiques et qui vont soutenir Israël à fond, mais la plupart sur le plan directement de leur intérêt
financier,
de leur intérêt, et je leur dis aussi ici les acteurs économiques, je leur dis ne mettez pas vos sous là-dedans, c'est une affaire qui va mal se passer. Donc il faut désinvestir d'Israël.
C'est vrai que c'est un levier assez important, c'est sûr, hein, ce levier économique.
C'est un levier important. Nous, on a eu il y a un exemple, on continue à contrer ce produit, à appeler à boycotter les machines SodaStream qui font de l'eau gazéifiée. Ouais. On continue de cette campagne. C'est une campagne qui a eu une campagne internationale. C'est un produit donc qui est vendu partout. Et, c'est une campagne internationale qui a eu plusieurs échos importants parce que l'actrice Scarlett Johansson était l'égérie de cette campagne et en même temps ambassadrice de l'ONG Oxfam. D'accord. Et Oxfam lui a dit
c'est pas possible.
Ah ouais. Donc elle a choisi SodaStream, tant pis pour elle.
D'accord, donc c'était...
voilà. Bon, d'autres à Angoulême, et là, il y a actuellement au Festival de la BD à Angoulême. SodaStream avait été choisi comme sponsor. Il y a une campagne des dessinateurs contre.
D'accord.
Donc, ça va se dérouler maintenant, il faut suivre, c'est intéressant. Ouais. Et en troisième point, on continue vis-à-vis de France Télévisions, qui eux, ils ont SodaStream comme sponsor.
D'accord.
On leur dit, faut arrêter immédiatement. Voilà. Donc nous, on va mener une action boycott, là, samedi, renseignez-vous, on va mener une action boycott.
Donc on peut avoir des renseignements sur le site.
Sur le site, voilà, faut contacter.
De rappeler le...
Samedi à 11h.
Le site, c'est...
Collectif 69 Palestine.
Tout attaché.
.free.fr.
.free.fr, d'accord.
Voilà.
Donc là, on trouvera toutes les informations pour cette action boycott.
Voilà.
Alors, j'ai vu aussi sur le site qu'il y avait une campagne de courrier aux députés aussi, qui est lancée, qui est en cours.
Donc pour les députés européens, comme je le disais, là, il y a quelques clics, on peut envoyer à nos députés européens de la région une lettre pour qu'ils demandent la suspension de cet accord d'association.
Et j'ai vu aussi qu'il y avait une action en direction de l'UEFA pour le projet d'Euro 2020 qui doit se dérouler à Jérusalem.
Donc, voilà, très bien renseigné.
C'est sur le site.
Donc c'est demain, l'UEFA, donc l'Union de football européen, doit décider des villes, parce que ça ne sera pas en 2020, ça ne sera pas une seule ville qui organise le championnat européen, mais plusieurs villes.
D'accord.
Et Jérusalem, c'est Jérusalem, même pas Tel Aviv, c'est Jérusalem qui se propose. Donc là, on est intervenu et il y a une campagne pour qu'il ne fasse pas ça, il ne faut pas faire ça.
Donc je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose.
On pourrait dire beaucoup de choses.
Oui, mais ce qu'on peut se dire, c'est que le micro t'est ouvert. S'il y a d'autres interventions à faire au niveau de ce sujet-là, on t'accueillera volontiers.
Ah ben avec plaisir.
Donc merci bien Dominique et à dans 15 jours.
Le grain de sable.